dans la recherche d'une paix universelle.
How dare you continue to look away?
En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.
Les entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Mon nom est Charles Tenenbaum et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Fanny Badache, Léa Kimmer et Lucille Martins. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Pour vous présenter en quelques mots, Fanny Badache, vous êtes maître assistante en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Genève et vos recherches se situent à l'intersection des relations internationales et de l'administration publique. Léa Kimmer, vous êtes maître assistante du département de sociologie à l'Université de Genève, spécialisée dans la sociologie des organisations internationales, vous intéressez à l'inclusion, à la diversité, aux sociétés civiles. Et enfin, Lucille Martins, vous êtes professeure associée à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève et co-directrice du Global Governance Center. Vos travaux de recherche portent notamment sur les organisations internationales. Vous êtes toutes les trois, par ailleurs, membres du réseau de spécialistes de l'Observatoire du multilatéralisme. Nous allons parler d'un ouvrage collectif que vous avez dirigé sous le titre « International Organizations and Research Methods, an Introduction ». Les organisations internationales, ou plutôt les méthodes de recherche sur les organisations internationales, une introduction, un ouvrage publié en 2023 aux presses des universités de Michigan. Cet ouvrage, je le précise d'emblée, est disponible en open access via un lien que vous trouverez également sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme. Alors, 360 pages de texte, 29 chapitres, des dizaines d'encadrés qui multiplient les différentes perspectives disciplinaires en articulant approches empiriques et théorique. Voici un ouvrage qui, sans aucun doute, fera date dans les productions sur les méthodologies de la recherche en sciences sociales et notamment sur le multilatéralisme et qui suscite un certain nombre de questions. Et je commence tout de suite avec une première question pour vous interroger sur votre démarche collective et cette nouvelle publication. Tout d'abord, qu'avez-vous appris sur les méthodes en réalisant ce livre collectif?
Alors, personnellement, vraiment un des éléments qui m'a le plus surprise, c'est la diversité en fait, des méthodes utilisées par les chercheurs et chercheuses qui s'intéressent aux organisations internationales et qui, je trouve, ne se reflètent pas entièrement dans les publications scientifiques qu'on a à disposition, notamment quand on regarde les publications scientifiques en anglais. Voilà, on sait que les chercheurs, chercheuses font des entretiens, de l'observation, utilisent des statistiques, étudient des textes légaux, des rapports. Mais ce qu'on a vu dans ce recueil et cet inventaire qu'on propose, c'est que la diversité des méthodes et des sources utilisées est vraiment vaste et va beaucoup plus loin. Et notamment, moi, je pense à l'analyse des images, les méthodes visuelles, l'analyse des sites internet, des artefacts. Des artefacts d'organisations internationales, toutes ces méthodes, ces différentes sources sont utilisées. Et donc j'espère qu'on verra de plus en plus cette diversité de méthodes et de sources se refléter dans les publications futures sur les organisations internationales.
Fanny Badache, merci beaucoup. Peut-être des éléments complémentaires sur ce projet d'ouvrage méthodologique dont on pourrait dire a priori qu'il porterait sur un sujet parfois présenté comme aride et au contraire ici on multiplie les approches, les courants de pensée. On a à la fois des chapitres qui développent un certain nombre de pratiques en sciences sociales et des encadrés qui offrent une entrée très rapide et très pratique sur le métier de chercheur. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter sur cette approche originale?
Très intéressant, merci d'avoir retrouvé en fait cette variété. Ce qui nous est paru important, c'est de se rendre compte qu'en fait la réflexion sur les méthodes n'appartient réellement pas au passé, mais c'est un pan fascinant de la recherche en sciences sociales qui requiert de la créativité. Et on l'a vu tout particulièrement avec la crise du Covid, qui nous a poussé à être parfois à distance. Ça a suscité des réactions fortes dans la communauté des chercheurs, que ce soit centré sur l'objet des organisations internationales, mais aussi plus largement. Pour certains, c'était une sorte d'occasion inespérée de pouvoir légitimer enfin les méthodes dites numériques à partir de leurs pratiques numériques, comme l'utilisation, par exemple, des messages vocaux sur WhatsApp. On a par exemple Verena Richardier qui nous parle d'en lire nos voix et entendre nos écrits dans un autre numéro spécial qui était coordonné avec Socio-Anthropologie. Justement, cette volonté de créer, enfin de réaliser des entretiens qu'on définirait comme asynchrones et qui deviennent en fait une méthode légitime. On a aussi d'autres chercheurs qui tout d'un coup se retrouvent à distance, et je pense par exemple à Mélanie Albaret qui est aussi dans le numéro spécial de Socio-Anthropologie, qui nous parle en fait de comment s'être mis à distance, d'être à distance tout en étant à la maison en séance avec dans une conférence. On est à distance et pourtant on est au plus proche, et donc il faut négocier ses accès grâce à des codes. Donc en fait cette réflexivité là qu'on doit nourrir en tant que chercheur nous pousse à la créativité, et donc nous pousse à penser par exemple l'ubiquité de nos outils numériques dans notre quotidien, dans nos pratiques, et comment on doit les utiliser dans nos recherches. Donc voilà, c'est d'actualité.
Merci beaucoup. On voit donc que finalement les méthodologies de recherche en sciences sociales, c'était un champ dynamique, hein, en mouvement, et ce n'est le contraire finalement d'un cadre qui serait statique en ce qui concerne la recherche sur des questions contemporaines, comme d'ailleurs sur des objets de recherche plus anciens. Lucile Martin, est-ce que vous vouliez compléter sur ce point ?
Oui, merci beaucoup pour cette question introductive sur finalement qu'est-ce qu'on a pu apprendre aussi dans ce processus éditorial. Et d'une certaine manière, j'aimerais presque renverser la question, de se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on a appris sur les organisations internationales et le multilatéralisme en s'interrogeant sur la place des méthodes. Et en fait, ce qu'on a pu voir à travers les différentes contributions de l'ouvrage, c'est que les organisations internationales sont à la fois un objet de recherche très banal, en fait, dans les sciences sociales. On a recours à des méthodes qu'on retrouve pour plein d'autres questions de recherche, plein d'autres objets. Et en même temps, elles ont une spécificité qui implique des degrés d'adaptation dans nos approches méthodologiques. C'est-à-dire que le fait que les organisations internationales soient multiniveaux, qu'elles aient une multiplicité, une diversité d'acteurs et d'actrices, et qu'elles interviennent dans des contextes politiques extrêmement complexes, tout ça, ça amène aussi à réfléchir davantage à ce que on doit faire sur le plan méthodologique pour pouvoir être le plus à même de tirer profit en fait de toutes ces méthodes pour étudier les organisations internationales. Et je pense que notre travail d'éditrice de cet ouvrage, ça nous a fait un peu comme une piqûre de rappel de voir à quel point les organisations internationales sont constitue un matériau empirique inépuisable, du plus micro, des relations humaines, des rapports au travail, de l'individu, au plus macro, que ce soit la résolution de conflits entre États, la production de normes internationales. Et en fait, à travers la question des méthodes, c'est voir aussi tout le pan de questions de recherche qu'on peut se poser sur le multilatéralisme qu'on a pu voir aussi dans cet ouvrage.
Merci. Oui, il est vrai que en vous penchant sur la question des méthodes de recherche sur les organisations internationales. De fait, c'est également une approche qui concerne l'étude des relations internationales en général, et Lucille Martins le rappelait à l'instant, notamment celle de la sociologie des relations internationales. Alors, j'avais envie de poser la question à Léa, Léa Kimber, si au cours de cette démarche collective, vous avez connu des surprises peut-être. Est-ce qu'il y a des éléments qui, dans ce processus d'édition et puis dans la direction aussi de cet ouvrage qui rassemble de nombreux auteurs, vous avez cité Mélanie Albaret, peut-être vous pourrez nous en citer quelques autres. Est-ce qu'il y a eu des surprises au cours du chemin ?
Alors, il y a eu évidemment plein de surprises, mais surtout des belles surprises. En fait, je pense qu'on a collectivement été agréablement surprise et de l'engouement en fait que ça suscitait. J'aimerais rappeler que seulement Lucille était docteur à cette époque et avait déjà avait soutenu sa thèse, et on était un peu encore les novices, Fanny et moi, et pourtant on avait à cœur de voir grand et de pouvoir réaliser un projet qui nous tenait à cœur et qui semblait fédérer en fait au-delà de juste nos discussions qui impliquait d'ailleurs Émilie Deron tout au début de ce projet. Donc le projet émane en fait d'une grande conférence internationale qui a eu lieu en 2018 à Genève et qui a servi comme base pour ensuite proposer un projet éditorial. Et l'idée, c'était de nouveau de où est-ce qu'on soumet ça, à qui est-ce qu'on va parler, quelle est notre audience, qu'est-ce qu'on essaye de, à qui est-ce qu'on veut parler. Et justement, on sentait qu'il y avait une sorte de l'air du temps, le vent avait tourné pour en notre faveur, dans la mesure où on sentait que les futurs contributeurs étaient vraiment généreusement enclins à vouloir communiquer et aller au-delà des frontières et de pouvoir vraiment se centrer autour d'un objet commun qui était les organisations internationales. Et donc voilà, la belle surprise, c'est que voilà, on a réussi à proposer un livre, à trouver une presse universitaire qui est une belle presse universitaire, et ensuite d'avoir aussi un public qui était au-delà de juste au-delà des frontières européennes, et puis de pouvoir aller de l'autre côté de l'Atlantique, qui était aussi une façon pour nous de faire des ponts et de pouvoir tendre un peu la perche vers nos collègues immédiats de anglophones. Et donc c'est la surprise, c'était un peu l'adhésion sans réserve à ce projet qui nous a vraiment porté, et on en est très très reconnaissante encore aujourd'hui.
C'est donc que, comme vous le soulignez à l'instant, je n'y avais pas porté attention, mais à l'origine, un projet porté par des jeunes chercheurs. Trois jeunes chercheurs qui ont donc rassemblé ce collectif, mais après tout d'ailleurs pour des jeunes chercheurs qui cherchent plutôt à publier sur les thématiques de leur recherche ou de leur doctorat, et donc plutôt sur des sujets qui concernent au premier chef leur recherche individuelle, leur recherche personnelle sur des terrains qu'ils ont fréquentés par exemple. Pourquoi cet intérêt pour les méthodes? Est-ce que par exemple Fanny Badache, vous pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, merci de nous permettre de revenir un peu sur nos premières idées et pourquoi on a voulu s'intéresser aux méthodes. Alors tout d'abord, enfin voilà, comme on l'a déjà dit, ça part quand même d'expériences personnelles de recherche pour toutes les trois. Et si je peux parler de la mienne, donc en effet, comme Léa l'a mentionné, c'était pendant ma thèse. Et mes directeurs thèse n'étaient pas spécialistes des organisations internationales. Et donc, quand j'ai dû commencer à réfléchir aux questions méthodologiques pour répondre à ma question, à l'entrée au terrain, je me suis sentie un peu démunie et j'ai pas trouvé les réponses à mes questions dans les ouvrages, les publications existantes. Donc, bien sûr, avec mes amis et collègues, on en discutait, mais j'ai pas trouvé de réponses publiées, on va dire. Et donc, et bien sûr, par la suite de mes recherches, après ma thèse, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été confrontée à des difficultés d'accès, de secret, et donc qui m'a poussée à avoir une réflexion méthodologique qu'après on a partagée. Et j'aimerais donner d'autres un peu éléments de réponse ou pourquoi on s'est intéressé aussi aux méthodes au-delà de cette expérience vraiment pratique. On avait aussi toutes les trois, et donc partagé aussi par les participants à cette conférence, la question de départ qui nous taraudait, c'était en quoi on a besoin de méthodes spécifiques pour étudier les organisations internationales. Est-ce qu'on on doit adapter nos outils de sciences sociales pour vraiment pour étudier ces organisations au vu de leurs spécificités, comme Lucine l'a mentionné, au vu des défis qu'on rencontre. Ça, c'est un deuxième point de motivation. Le troisième point que je pourrais préciser est on observe quand même dans la littérature une émergence des discussions sur les méthodes, la méthodologie en relations internationales et dans des sous-champs comme les études critiques de la sécurité. Mais à l'époque, rien n'avait encore, enfin, rien ou très, enfin, peu avait été écrit sur spécifiquement les organisations internationales. Donc, on s'est dit, là, on aurait aussi une bonne place pour un complément à la littérature. Et enfin, deux éléments rapides pour aussi rebondir sur ce que Léa a dit. Pour nous, les méthodes étaient un moyen de fédérer les chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines, de plusieurs horizons académiques différents autour d'un même objet de recherche. Voilà, on est toutes et tous intéressés par l'objet OI et discutons des méthodes, discutons de comment on les étudie. Et enfin, le dernier point que je voudrais mettre en exergue est que cette entrée par les méthodes nous permet aussi d'être plus réflexifs en tant que chercheuse et donc d'être plus réflexifs sur nos pratiques et comment on produit des savoirs. Et donc ça, c'était important pour nous aussi de pousser le champ des études sur les organisations internationales dans ce sens de plus de réflexivité.
Une approche transdisciplinaire ou multidisciplinaire et également, si ce n'est transnationale, en tout cas internationale, parce qu'on y trouve à la fois des chercheurs européens, des chercheurs d'outre-Atlantique. Cette dimension, cette ouverture large sur la provenance également des environnements professionnels de la recherche est une des caractéristiques de votre livre. Peut-être Lucile, Martins, vous pourriez nous en dire un mot avant de nous présenter l'architecture même de ce livre, comment vous l'avez pensé autour de quelques grands chapitres. Mais d'abord peut-être un mot sur cette dimension voilà, de l'internationalisation et comment vous l'avez portée aussi, et comment elle s'inscrit, comment elle se manifeste dans le produit final qu'est ce livre.
Beaucoup pour cette question qui, je pense, fait écho à certains des éléments qui ont déjà été mentionnés sur la diversité à travers les ponts qu'on a voulu bâtir entre différentes communautés de recherche. Et je pense que si on regarde notre table des matières aujourd'hui, elle est quand même assez représentative du programme de la conférence qui avait donc eu lieu en 2018, où on avait vraiment fait cet effort à l'époque, lorsqu'on avait lancé l'appel à communication, de le faire circuler très largement, de réunir à Genève différentes communautés de recherche qui travaillent sur ce même objet qui est les organisations internationales, mais qui ne communiquent pas forcément toujours de manière étroite. Et donc, Genève a été un bel endroit, en fait, pour faire cette rencontre, parce qu'on avait à la fois les chercheurs et chercheuses francophones de Suisse romande, mais également de France. Et en même temps, on a eu beaucoup de collègues qui sont venus d'Allemagne et quelques collègues aussi qui sont plutôt anglophones. Et donc, on est parti en fait de ce programme pour identifier d'abord, faire une première table des matières qui montre à la fois une diversité, mais qui montre aussi ses limites. C'est-à-dire que lors de cette conférence, malgré nos efforts d'avoir cherché notamment à atteindre davantage de collègues dans les universités du Sud, on doit bien reconnaître que c'est quelque chose sur lequel on a encore du travail à faire. Et on a cherché plus tard aussi à étendre la diversité géographique des personnes qui ont contribué à l'ouvrage. Mais on espère en tout cas que... Enfin, c'est loin d'être un travail fini et que l'idée, ce serait de toujours continuer d'avoir davantage de diversité. Mais donc, la première table des matières, elle était vraiment sur la base des personnes qui avaient proposé de venir à cette conférence. Et ensuite, on a fait des invitations complémentaires, notamment pour solliciter des collègues en Amérique du Nord. C'était beaucoup plus facile une fois qu'on avait le contrat avec la maison d'édition, pour être parfaitement honnête.
Véritable ampleur qui est celle aujourd'hui du livre sur les méthodes de recherche sur les organisations internationales. Alors pour revenir à justement l'ouvrage lui-même et peut-être des exemples concrets que vous pourrez mentionner, vous l'avez construit autour de quelques grandes entrées, je crois 5 grandes entrées. pour chacune de ces entrées précédée d'une introduction que vous avez rédigée à trois, avant de donner la parole à plusieurs, à d'autres chercheurs, collègues, justement, sur des questions plus spécifiques sur le plan méthodologique. Mais je vous laisse en dire davantage, Lucille.
Effectivement, on a choisi de structurer l'ouvrage en cinq grandes parties, grandes familles de méthodes. Et chacune de ces parties comprenait à la fois donc cette introduction dans laquelle on essayait de finalement mettre en avant les grandes questions de recherche qu'on peut traiter à partir de ces méthodes, et notamment pour aiguiller les personnes qui seraient aux premières étapes d'un projet, qui ont une idée d'une question, d'un sujet, mais qui ne savent pas nécessairement quel appareil méthodologique utiliser. Et donc, c'est à ça aussi que servent ces introductions. Ensuite, on a donc des chapitres qui rentrent dans une méthode plus spécifique ou une combinaison de méthodes, et finalement, les encadrés qui, là, font, je dirais, c'est en 500 mots, un point très spécifique. Et je vous donnerai quelques exemples par la suite. Les grandes parties sont aussi conclues par des interludes qui ont une fonction un peu de respiration, un moyen aussi de discuter des controverses, des débats et d'ouvrir en fait sur les grandes questions dans ces familles de méthodes. Donc les cinq parties, la première c'est l'observation. Donc c'est toutes les méthodes qui touchent de près ou de loin à l'observation, donc dans lesquelles on prend par exemple le premier chapitre, l'observation directe, qui a été coécrit par Carrie Depric et Svenja Rohr, qui porte les questions sur finalement comment on fait quand on rentre dans une salle de négociation multilatérale, qu'est-ce qu'on observe, déjà comment on y a accès et pourquoi on irait utiliser cette méthode. Et donc dans cette première partie, c'est vraiment l'outil des yeux, mais aussi du corps qui est mis en avant, cette manière qu'on a en tant que chercheur et chercheuse d'être capable de faire l'expérience des organisations internationales. Dans la partie suivante, qui est consacrée aux entretiens, là, ce qui relie tous les chapitres dans les contributions qu'on a dans cette partie, c'est la question de l'individu, quoi. Qu'est-ce que le dialogue avec l'individu nous permet d'obtenir comme type de données et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les organisations internationales? Que ce soit des entretiens qui sont extrêmement formalisés, donc comme les sondages, avec la contribution de Clara Eger et de Monique Berli, ou au contraire des choses qui sont beaucoup plus fluides, et notamment, je pense aussi aux entretiens qui sont dits semi-directifs avec la contribution de Mélanie Albaré et Johan Dess. Dans la partie suivante, qui est la partie la plus conséquente de l'ouvrage, qu'on a appelée « documenter », c'est celle où les contributions amènent toute une série de méthodes pour étudier les productions des organisations internationales. Et donc, bien entendu, on peut penser à la production légale, hein, qui est la première qu'on a étudiée, les traités, donc notamment le chapitre de Jan Heard porte là-dessus. La question des archives aussi, hein, que les historiens et historiennes avaient mobilisé déjà depuis bien longtemps avec le chapitre d'Hélène Ravdan, mais également des choses peut-être un petit peu moins communes. Donc, par exemple, comment on étudie les cartes qui sont produites par les organisations internationales, ces manières de représenter le monde avec l'encadré de Benoît Martin. Et donc, dans cette partie, c'est vraiment à la fois comprendre le discours qui est porté dans ces productions, mais aussi tout le travail de création et qu'est-ce que ça nous apporte sur le fonctionnement des organisations internationales. La quatrième partie, elle est consacrée à les données quantitatives. Donc, cette manière dont on peut mesurer un certain nombre de phénomènes. Et donc, notamment, on a une entrée par Eric Votum sur l'analyse du vote et donc les spécificités d'analyser le vote dans le cas des organisations internationales qui diffèrent du comportement politique au niveau national. Et donc là, toute une série en fait de méthodes qui nous permettent notamment d'avoir un regard systématique sur le fait multilatéral. Et finalement, la dernière partie qu'on a appelée combinée, qui vient poser la question de la plupart du temps, la plupart des projets en fait, elles utilisent plusieurs méthodes, mais qu'est-ce que ça fait de combiner quelle méthode avec quelle autre et à quoi il faut prêter attention quand on les combine dans le cas d'un projet de recherche sur les organisations internationales. Et donc là, on a à la fois des méthodes qui sont par essence des combinaisons, comme par exemple le chapitre sur l'analyse des pratiques de Vincent Pouliot, ou au contraire des chapitres qui vont chercher vraiment à faire le lien entre différents types de méthodes, comme l'entrée de Marie-Clouy qui croise observation, entretien et archives.
coup, on mesure à la présentation de ces différentes entrées et la diversité aussi d'approches, ne serait-ce que dans la présentation des contenus dans votre ouvrage, la très grande richesse et puis aussi, de manière finalement assez paradoxale pour un livre sur les méthodes, la très grande facilité d'accès et de lecture de votre ouvrage que l'on peut déjà recommander, c'est ce que je fais naturellement déjà à des étudiants, mais d'une manière plus générale aux étudiants des relations international, qu'il soit plus junior ou plus senior, puisqu'il propose ce panorama des méthodologies de la recherche en relations internationales et également en sens social de manière plus générale. C'est donc aussi mon propre souhait pour votre ouvrage, c'est de le voir utilisé le plus possible et devenir ce qu'il est certainement déjà, une référence dans le domaine. Et j'imagine que toutes les trois, vous avez peut-être aussi chacune des souhaits à formuler pour cette publication et je voudrais vous laisser la parole pour les exprimer.
Merci beaucoup. Alors si je commence, ça, tout d'abord, on espère que au court terme, moyen terme, il sera utilisé de manière large et grâce notamment à sa diffusion en accès libre, en open access, c'est vraiment une volonté de notre part d'avoir le livre accessible et gratuitement qui peut être téléchargé. Donc ça, c'était voilà pour maximiser l'utilisation. Et on va dire que son utilisation, on espère viser trois types de groupes, trois types de publics. Alors bien sûr, comme vous venez de le dire, le corps, on va dire, estudiantin, ou on va dire les chercheurs en formation, en devenir... qu'il y a n'importe qui doit commencer un nouveau projet de recherche, enfin, même, je dirais, à différents stades du projet de recherche, que ce soit au début, quand on pense à sa question et qu'on doit commencer à réfléchir à quelle méthode on peut utiliser. Dans les chapitres du livre, on a toujours une section qui s'appelle « What », pour expliquer à quoi servira, à quelle question peut permettre de répondre cette méthode. Donc là, la personne peut utiliser ça pour comprendre l'applicabilité, comment cette méthode peut être utilisée, mais aussi à la suite du projet de recherche, quand la personne a choisi sa méthode et veut commencer à l'appliquer avec les encadrés, mais aussi les chapitres, avoir des éléments un peu plus pratiques, vraiment pour l'accompagner dans le terrain, dans la recherche empirique. Un deuxième élément aussi pour les étudiants et étudiantes, ce qui était important pour nous, c'est d'élargir l'horizon des possibles en termes de données et de méthodes, ce que j'ai un peu dit au début par rapport à la diversité, mais aussi de légitimer aussi certaines pratiques, parce qu'on sait tous que la recherche, parfois, c'est un peu du bricolage, on essaye, on réessaye, on se trompe, et donc de légitimer certaines données, comme par exemple l'utilisation de LinkedIn, pour aller voir les profils des personnes qu'on veut interviewer, on le fait tous et toutes, et ben c'est totalement légitime et utile, et on a une contribution sur ça dans le livre. Donc voilà, pour les étudiants et étudiantes, pour nous, c'est vraiment aussi ce format court de chapitres de 1500 mots, box de 500 mots, avec tout le temps une partie de références supplémentaires pour aller plus loin. Et enfin, enfin aussi, comme vous l'avez dit, pour un chercheur, on va dire, plus établi, on a tous nos biais ou nos préférences méthodologiques, mais parfois, on a envie de se renouveler, d'évoluer. Et donc là, si on a envie de commencer une recherche en utilisant une nouvelle palette de méthodes, eh ben une personne, un chercheur ou une chercheuse établie peut aller voir notre livre et se dire « Ok, j'ai envie de faire de l'observation, comment je commence, quelles sont les choses importantes à laquelle je dois être attentive ?» Et aussi, encore une fois, ouvrir la curiosité des chercheurs et chercheuses. Et enfin, je pense qu'on pourra aussi encore développer, pour les enseignants et enseignantes, dans un cours sur les organisations internationales, ce livre a aussi une belle place dans une partie introductive pour présenter l'étude des organisations internationales par une perspective méthodologique ou dans des cours de méthode spécifiques ou plus généralistes en donnant des illustrations avec le cas des organisations internationales et des exemples d'applications pratiques.
Lucille Martin, Souléa Kimber.
Juste rebondir sur quelques éléments qu'elle a dit, Fanny, qui sont évidemment ce qu'on lui souhaite à cet ouvrage. Mais c'est vrai que l'idée que d'avoir ce livre comme centré sur les OUI, mais qui devient finalement un prétexte pour pouvoir enseigner les méthodes en sciences sociales de manière plus générale, je pense que ça peut être tout à fait intéressant pour des collègues en sociologie, en géographie, en histoire. Et donc, voilà, aller au-delà de juste le public cible qui serait des étudiants en Sciences Po et en relations internationales, et vraiment prendre ça, prendre ces méthodes et cet ouvrage comme une ressource précieuse, parce qu'effectivement, on ouvre sur des références qui sont beaucoup plus génériques et qui parlent vraiment à des méthodes spécifiques au-delà des organisations internationales. Donc, on pourrait lui souhaiter de passer les frontières, disons, et ces silos disciplinaires, disons.
Déjà très bien parti, puisque ce podcast que nous enregistrons aujourd'hui a déjà une dimension internationale, puisque toutes les trois, vous exprimez depuis la Suisse, alors que nous enregistrons à Paris. Vive la technologie. Lucille Martins, je vous laisse ajouter sur ce point.
Cet ouvrage, je dirais déjà de le valoriser le plus longtemps possible. C'est vrai qu'on voit les pratiques de recherche qui évoluent tous les jours. Et effectivement, on ne peut pas vous cacher qu'on a déjà en tête toutes les nouvelles contributions qu'il faudra ajouter dans une deuxième édition. Et en même temps, il nous tient à cœur de montrer que c'est important de valoriser ce qui est déjà publié, ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà disponible, pour pas être justement dans toujours cette course à la publication. Ceci étant dit, on estime effectivement que l'avenir de l'ouvrage, ça va aussi être de se renouveler. Et notamment, quelque chose qui nous semble très intéressant, c'est de voir comment l'évolution des pratiques sociales auront des effets sur l'évolution de nos méthodes et aussi sur l'évolution de notre travail en tant que chercheurs et chercheuses. Et donc, ce qu'on espère aussi en ayant ouvert avec cette grande diversité et cette palette aussi de méthodes, c'est d'inciter à être toujours attentif à la manière dont le travail des organisations internationales dans notre cas évolue et comment en parallèle on doit du coup faire évoluer nos méthodes. Je pense par exemple à comment on va devoir prendre en compte comment les historiens et historiennes vont travailler sur le matériau qui ne restera pas des conversations WhatsApp qui sont échangées entre les fonctionnaires internationaux. Comment on va prendre en compte dans notre étude des textes qui sont produits par les organisations internationales l'effet de l'évolution de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la traduction. Tout ça, c'est des choses qui changent en fait les pratiques quotidiennes des organisations internationales. Et donc, je pense que ça va être aussi ça, la suite de cet ouvrage, c'est de continuer à réfléchir. Et peut-être le dernier point que j'aimerais soulever, c'est que on a notamment donc dans la dernière partie, on a des contributions qui ont vraiment fait l'effort d'insister sur la question de la réflexivité. Donc, je pense notamment au chapitre de Georgina Holmes sur les approches féministes, mais également les encadrés de Sumita Basu sur les approches postcoloniales et l'encadré d'Audrey Alejandro sur la réflexivité en pratique. Et en fait, peut-être que aussi dans la suite de nos pratiques méthodologiques dans la recherche sur les organisations internationales, avoir plus de réflexivité, ce sera aussi réfléchir en termes de pratiques moins extractivistes, c'est-à-dire peut-être penser plus dans une manière transdisciplinaire, avec de la coproduction des savoirs, avec les individus qui font les organisations internationales au quotidien. Et donc, peut-être qu'il y aura une place davantage à cette question de la coproduction, l'application des sciences citoyennes, par exemple, à l'étude des organisations internationales dans les prochaines éditions.
Merci beaucoup. S'intéresser donc aux méthodes de recherche sur les organisations internationales et sur les relations internationales, c'est donc aussi s'intéresser aux mutations du métier de chercheur en relations internationales et établir, et nous pouvons que nous et vous en féliciter, vous en remercier, un dialogue au sein de la communauté des chercheurs en relations internationales. Nous voilà donc arrivés au terme de ce podcast. Merci Fanny Badache, Léa Kimber et Lucille Martins d'être venu parler de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé sous le titre, je le rappelle, International Organizations and Research Methods, An Introduction, ouvrage qui est accessible en open access. Chères auditrices et chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous sur le site de l'Observatoire pour écouter d'autres podcasts et en apprendre davantage sur le multilatéralisme et les organisations internationales. À très bientôt.
Je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.